Thank you very much. May I ask the defense to raise their questions?
As I understand the argument that, that you're making is the military-industrial complex is driving the geopolitical framework that you established. How do you, I have two questions. How do you explain that the founders of PNIC and its main ideologues, William Kristol and Bob Kagan, do not belong to this military-industrial complex? And what's more, that it seems that the second question is that in your listing of members, associates, signatories, that that you pick and choose among those members and make little distinction between who are the center of PNIC. Now, I would assume that you would consider that the founders and directors would be at the center, and you would have to cite them in making your argument. And that in listing the associates, the signatories, that you include ones that go far beyond the military-industrial complex, but do not adequately explain that it also includes academics, magazine publishers, family members, social conservatives, that it would seem to be difficult to, would you agree that that PNIC is not solely a weapon of the military-industrial complex? So two questions.
Jim Lobb first, we have the answers all together.
I just want you to explain, or make clear rather, that the most of the people whom you cited were signers of various documents or statements as opposed to, quote, members, unquote. That would be my initial request, but I want to echo a little of what Tom said, and I want to subscribe fully to Dr. Briquemont's initial statement. But can you tell us, for example, the meaning of the Committee for the Liberation of Iraq? Exactly what, if anything, other than meeting once with Condoleezza Rice in the White House, did the Committee for the Liberation of Iraq ever do? Or with respect to Tom Donnelly, whom you mentioned in your submitted testimony, you cite that he worked with Lockheed Martin. Are you aware that he worked for Lockheed Martin for a total of 6 months? Again, I'd like to reiterate my admiration for Dr. Briquemont's first question, because I do think that because the United States is a capitalist society, you will find, as you yourself noted, Democrats as well, Republicans sitting on the boards or serving in other positions of major corporations. And because of the nature of the U.S. economy, major corporations are heavily high technology, heavily electronic, heavily defense, and heavily oil related. But I do indeed, as does Dr. Briquemont, question the necessary relationship between one and the between their corporate affiliations and their political views.
Thank you. Geoffrey.
Donc je vais répondre à ces différentes questions. Tout d'abord concernant les, on m'a dit ne pas avoir assisté assez sur les fondateurs du PNAC, d'avoir trop assisté sur les administrateurs, les signataires plutôt que sur à l'origine. Je pense que ça s'explique. Différentes raisons. Tout d'abord, par rapport au travail que j'ai mené depuis plusieurs années sur les think tanks et les instituts en recherche stratégique, il faut constater objectivement que, au-delà de la problématique conservateur ou démocrate et au-delà de l'opposition Europe et États-Unis, la structure de ces boîtes à idées est très souvent la même. Je dirais que les gens de terrain et les fondateurs sont d'abord des intellectuels. Il ne faut pas oublier que PNAC produit des rapports et des lettres. C'est d'abord, on est bien d'accord, une instance de réflexion, de production de discours, de production intellectuelle qui a d'abord donc une fonction idéologique de justification d'intervention militaire. Donc il est assez logique de retrouver là des professionnels à temps plein de la production intellectuelle, que ce soit des universitaires ou des journalistes. Reprendre une formule de Pierre Bourdieu, ben, je dirais que ça participe tout simplement d'une stratégie de division du travail, de domination. On ne peut pas faire tout en même temps. Ce qui est intéressant de constater, c'est que derrière ces structures, ces groupes de réflexion stratégique, il y a bien sûr chaque fois à l'avant-plan ceux qui ont pour précisément de tenir un discours idéologique et qui maîtrisent particulièrement les arguments et les discours permettant de masquer des enjeux économiques et stratégiques. Ils sont habitués à ce genre de dispositif, mais qu'à chaque fois, les actionnaires, les administrateurs et ceux qui alors viennent appuyer le projet de création de tel ou tel think tank, ce sont chaque fois, évidemment, des industriels ou des personnalités affluentes du milieu financier ou particulièrement du complexe militaro-industriel. Donc il n'y a aucune opposition à ce que les fondateurs soient d'abord, puisque c'est d'abord de think tanks que l'on parle, des intellectuels qui ont une fonction idéologique. C'est eux aussi qui, au quotidien, interviennent dans les médias précisément et qui connaissent ces stratégies de relations publiques pour faire passer ce message. C'est William Christol qui a été invité, par exemple, à l'émission « Tout le monde en parle » de Thierry Ardisson, émission particulièrement influente de grand public, qui a une audience importante sur France Télévisions. Donc il n'y a pas d'opposition. Justement, il ne faut pas s'en tenir aux fondateurs, vitrine précisément, et au fait que les fondateurs sont des intellectuels, puisque c'est justement l'image que veut donner les think tanks d'être purement des groupes de réflexion dégagés des intérêts géostratégiques et économiques. Que cet argument-là ne tient pas. Ensuite, vous me dites, il y a dans les signataires et même dans les administrateurs de nombreuses personnalités qui n'ont rien à voir avec le complexe militaro-industriel, sont plutôt proches du monde intellectuel ou des médias. À nouveau, division du travail de domination, ce sont ces personnalités, ce sont des gens comme Kirkpatrick et d'autres qui sont particulièrement connus pour être d'abord et avant tout à l'avant-garde des productions idéologiques. Donc, forcément, on ne peut pas avoir que des militaires puisqu'on a affaire à un think tank. Il faut des gens dont le travail, la fonction professionnelle primaire est tout simplement une fonction de production de discours et de relations publiques. Ça me paraît assez logique. Alors, concernant la différence entre... Vous me dites qu'il faudrait plus insister sur la distinction entre les signataires et les membres d'administration. Je crois que je l'ai fait. C'est tout, je l'ai dit. Il y a des signataires... Il y a des administrateurs, donc ils n'ont pas le même degré d'implication, mais ce qui est intéressant de constater, c'est que même les signataires entretiennent à nouveau des liens très étroits avec globalement l'économie américaine et plus particulièrement le complexe militaro-industriel. Ensuite, concernant le fait que Thomas Donnelly, puisque ça allait bien son prénom, si je me trompe, oui, est membre du PNAC et qui n'a travaillé que pour quelques mois pour Lockheed Martin. Oui, mais vous me sortez un nom sur 25 ou 30 que je vous ai donné avec des personnalités qui ont travaillé des années pour les industriels de la défense. Voilà, voilà ma réponse. Alors, concernant le fait que, est-ce que tout simplement ce ne serait pas lié à ce constat assez évident qu'on est là face à un État, pardon, dans une économie de marché, État capitaliste, dont forcément l'appareil d'État entretient des liens étroits avec le monde des affaires et entre autres le complexe militaro-industriel, je l'ai dit tout à l'heure, oui, et les démocrates aussi entretiennent des liens étroits avec le monde des affaires aux États-Unis, et certains avec le complexe militaro-industriel, mais je répète à nouveau que dans la politique qui a été menée, il y a un saut qualitatif et quantitatif, et que, à nouveau, dans les liens entre administration et complexe militaro-industriel, il me semble que le PNAC et le monde républicain ont des liens beaucoup plus étroits, que ce soit quantitativement, qualitativement, avec le complexe militaro-industriel. Voilà. Alors, il y avait encore une petite question. Vous me demandiez la signification du comité pour la libération de l'Irak en me disant qu'ils ont rencontré une fois Condoleezza Rice. Bon, tout d'abord, je préciserai qu'on m'a demandé de focaliser sur l'essentiel. Donc, ici, on parle du PNAC. Mais il est très clair que les membres du PNAC, du comité pour la libération de l'Irak ou d'autres instances, se voient et se font dans dizaines d'autres institutions. Qui sont des conseils d'administration, qui sont des autorités publiques ou qui sont des commissions gouvernementales, qui sont d'autres think tanks, d'autres instituts de recherche, qui sont les conseils d'administration d'université. Donc, je dirais que c'est un élément, une instance en plus dans la stratégie de domination, d'hégémonie du capital, qui passe bien entendu par le call de différents monopoles, enfin, je pense que M. Amin en parlerait mieux que moi, mais aussi par le monopole sur la production idéologique. Voilà, tout simplement.
And do have some of the members of the commission, do they have any questions?